Culture et société.
Là, c'est la cerise sur le sundae. Qu'est-ce qui a poussé le premier ministre à nommer une starlette à la culture?
Qu'est-ce que vous apporterez de nouveau à la culture?
Les 100 millions que le ministre des Finances a promis aux artistes lors des dernières élections.
Comment lisse?
Le ministre des Finances, il a décidé de vous donner une leçon. C'est un désastre.
Beware of my husband, Tarlette.
Tu m'énerves!
He's a pitbull.
Notre caucus, il se divise en deux.
Ça fait vraiment pas sérieux.
Celui de Giroir, puis de l'autre bord, celui du premier ministre.
La politique est un jeu dangereux.
Êtes-vous prête à mettre votre tête sur le bio?
Le 21e siècle sera dirigé par des femmes.
On retrouve Marika Simard sur un extrait de ce film dont on a beaucoup parlé, Arlette, qui prend l'affiche finalement.
Oui, on en a beaucoup parlé et ce, bien avant la sortie de ce film qui sort finalement ce vendredi, demain. S'il a fait grand bruit, on le sait dans les dernières semaines, c'est notamment en raison du choix de l'actrice principale, Marie-Pierre Morin. Mais quand même, malgré toute cette tempête, il y a Marie-Lou Wolfe qui réalise ce film-là, qui a défendu son choix de garder Marie-Pierre Morin bec et ongle. Et après le visionnement de ce film, Vincent, je peux comprendre pourquoi. Arlette a tellement de similitudes avec Marie-Pierre Morin que ça en est presque déstabilisant. Arlette, c'est une jeune femme qui va brillamment réussir dans le milieu de la mode et qui va se faire approcher pour devenir ministre de la Culture, la 30e ministre de la Culture. Et tout comme Marie-Pierre Morin, c'est une jeune femme qui a du chien, qui ne mâche pas ses mots, vraiment qui a un franc-parler. Et rapidement, elle va se rendre compte qu'en politique, ce sont pas nécessairement les femmes qui règnent et qui mènent. Et donc, elle va entrer dans ce harem qui est la politique, qui est un monde très, très dur, un monde d'hommes principalement. On va rapidement la remettre à sa place. On va l'humilier même à répétition. On va lui donner on va lui offrir des propos misogynes également. Et ça, c'est aussi ce qui m'a frappé dans le film. Et tout ça va se passer autant de la part des hommes que des femmes, hein. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui vont émettre des propos misogynes. Donc, c'est une œuvre, oui, qui nous fait entrer dans les coulisses de la politique, mais c'est surtout une œuvre qui nous oblige à poser un regard ultra sévère sur l'image que les hommes, je dis hommes avec un grand H, se font de la femme qui réussit. Et donc, le personnage d'Arlette, je le trouve très, très près de Marie-Pierre Morin, même qu'à certains moments, je me suis demandé, est-ce que c'est l'actrice, est-ce que c'est le personnage? Bref, je trouve qu'elle relève bien le défi à travers ce rôle-là, malgré toute la tourmente qu'on connaît autour de Marie-Pierre Morin. Le jeu de David Lahaye également, que je voulais souligner, qui joue l'intransigeant ministre des Finances, il est excellent. C'est la deuxième fois qu'on le voit cet été dans un film. Benoît Brière, qui est coloré, qui est drôle, qui est surprenant, qui ne mange pas ses mots lui non plus. Et je trouve que le coup de grâce qui est donné dans ce film-là, c'est la signature photo d'Yves Bélanger. Le film est tourné principalement dans la ville de Québec, hein, c'est en politique. Donc, voilà. Et les vues panoramiques sont splendides. Je trouve vraiment que ça rend hommage à la ville de Québec. Une belle signature artistique dans ce film-là. Ça vaut vraiment la peine pour ça. Donc, le film qui va prendre l'affiche un peu partout au Québec à compter de demain.
Est-ce que les gens vont se déplacer? Ça va être intéressant de voir aussi.
Tu sais quoi? Je pense que si les gens se déplacent en grand nombre, on va peut-être avoir une idée d'où on en est avec Marie-Pierre Morin. Est-ce qu'on décide de tourner la page et d'avancer, ou est-ce qu'on décide de rester où on est et d'avoir un statu quo par rapport à elle?
Ouais, parce qu'on voit quand même dans les messages de réseaux sociaux, elle a vraiment une espèce d'armée, vraiment un appui, là, un groupe de population qui souhaitait vraiment son retour avec ferveur. Est-ce que ça va se traduire en une réussite financière pour ce film-là? C'est ce qu'on va voir dans les prochains week-ends.
Ouais, encore là, il faut faire attention avec les réseaux sociaux. Souvent, c'est un film qui est fait par les gestionnaires de communauté. Donc, à voir si elle va avoir le soutien ou non de la communauté, parce qu'on le sait, c'est le public qui choisit.
Et c'est ça. Ça, c'est dans les mains du public. Ça, c'est clair. Palmarès Pollstar qui dévoile, ça, c'est toujours intéressant, Marika, les artistes les plus lucratifs.
Oui, écoute, j'ai fait un petit sondage à l'arrière en studio, en régie avec nos garçons. Ça a été difficile. On n'a pas réussi à dresser donc cette liste. Donc, ils font ça depuis 40 ans, cette fameuse liste. Et sans surprise, les deux formations qui sont au sommet de ce palmarès, ce sont deux formations rock. On a d'abord les Rolling Stones. Stones, qui, depuis le début de leur carrière, ont cumulé 2,8 milliards de dollars.
Oh là là. OK, c'est de tous les temps. Là.
De tous les temps, okay, oui. Pas on cette remonte, année, oui, c'est important okay. de le dire. Et non loin derrière, là, on a la formation U2, qui a réalisé, quant à elle, 2,7 milliards de dollars depuis le début de sa longue carrière et sa riche carrière. Mais là où ça devient intéressant, Vincent, c'est qu'il y a un artiste de chez nous qui se hisse également dans le top 10 de ce palmarès.
C'est Céline?
Ben oui, qui d'autre que Céline?
Ah ouais, dans le top 10, donc dans combien? 1,4 milliards?
Est à 1,7 milliard depuis le début de sa carrière. Elle se retrouve donc en sixième position.
Mais elle a presque jamais arrêté. Elle n'était pas en tournée, elle était à Vegas. Donc, je comprends que c'était une money maker. Là.
Et tu parles de tournée là, seulement pour les billets de spectacle. Elle en a vendu dans sa carrière près de 11 millions. Et ça fait du monde.
Oui, surtout avec le prix des billets de nos jours. Je comprends qu'au début, c'était peut-être moins cher, là, mais pour avoir vu son quand il est passé à Montréal, ouais, là, c'est ça, c'était pas donné.
Et tout récemment, on l'entend de moins en moins là, depuis quelques années. Là, elle est un petit peu plus discrète, disons-le. Ses tournées de spectacles, elle est moins présente donc dans la sphère, mais malgré tout, elle se retrouve en sixième position. Et je regardais la liste également, je trouvais ça intéressant. Il y a seulement deux femmes qui se trouvent dans le top 10 de ce fameux palmarès. L'autre côté, on a eu beaucoup de difficultés à trouver cette équipe.
Madonna.
Ah, bravo. Ouais.
Ben, je sais pas.
Oui. Ouais. Cinquième position, on a la belle
qui
Madonna.
Ben, Beyoncé, peut-être.
Beyoncé se retrouve en 15e position.
Okay, pas trop loin. Ouais. Mais il faut comprendre aussi que dans la mesure où c'est de tous les temps, ça veut dire que tu remontes aussi dans les années 70 où il y en avait encore moins. Là. Sûr que si on faisait le palmarès des 20 dernières années,
ça se rapproche
probablement un peu plus. Là.
Ouais.
Parce qu'il y a des femmes superstars justement qui ont pris beaucoup d'ampleur.
On pense notamment à Rihanna.
C'est ça. Mais dans les années 60, 70, c'était plus des gros bands de gars justement comme les Stones ou U2 et
Beatles.
Compagnie. Là, les Beatles. Alouette. Là.
Ouais, ouais, ouais. Donc, on est là-dedans. Donc, voilà, c'est eux qui se retrouvent au sommet principalement de ces palmarès. Trois femmes seulement qui se retrouvent dans le top 20. Tu les as bien nommées, Madonna, Céline Dion et Beyoncé.
C'est là que t'es content de ne pas être dans un band parce que là, l'argent, tu le gardes juste pour toi. pas avec
pas
le drummer, puis un bassiste, puis juste pour toi.
C'est
quand même intéressant. Merci beaucoup, Marika. À demain.
À demain.